Voilà, donc je vous propose une seconde réflexion qui est un peu dans le prolongement de la première, et c'est de nouveau avec le même objectif de vous proposer un cadre à partir duquel on peut interroger les situations difficiles dans lesquelles peuvent se retrouver parfois certains enfants ou certaines familles lorsqu'il y a une séparation. Donc à la fois c'est une prise de recul et à la fois je tâcherai de faire des liens pour que vous voyez le rapport avec ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors le thème ici, donc je vais commencer d'abord par le cadre que je voudrais interroger. Le thème c'est le suivant, c'est de se demander dans le fond à quoi ça sert une famille. Alors vous verrez qu'il y a des petites choses qu'on peut raconter là-dessus qui vont nous permettre de comprendre certains enjeux lors d'une séparation. Donc à quoi ça sert une famille? Alors évidemment, on pourrait se dire, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, une famille, ça sert à être heureux, ça sert à s'épanouir, ce genre de choses. Eh bien, curieusement, c'est pas vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est mieux si on s'épanouit dans sa famille. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais ce n'est pas ça qui détermine ce qui est essentiel dans une famille. Parce que, par exemple, pour que vous compreniez pourquoi on dit ça, je vais quand même vous l'expliquer pour ne pas aller trop vite. Un groupe d'amis, c'est fait aussi pour s'épanouir. On n'est pas tout seul et on est avec d'autres. Et ça pourrait suffire. Or, une famille, ce n'est pas un groupe d'amis. Donc, vous voyez, la question, c'est est-ce qu'une famille, c'est comme un groupe d'amis où on est content d'être ensemble, on passe du bon temps ensemble, etc. Oui, c'est peut-être comme un groupe d'amis, mais dans une famille, et c'est pour ça qu'une famille, ce n'est pas un groupe d'amis non plus, il y a autre chose qui est en jeu. Et donc, vous voyez, quand vous faites ce genre de distinction, ça, c'est des méthodes qu'on a pour essayer de voir de quoi on parle. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une famille est une famille? Est-ce que c'est des gens qui s'aiment bien et qui vivent ensemble? Un groupe d'amis, c'est la même chose. Une équipe de foot, c'est la même chose. Enfin, donc, du coup, tous ces groupes-là, est-ce que c'est du pareil au même? Ou bien, donc c'est comme ça que vous en arrivez à la question, ou bien est-ce que dans une famille, par exemple, il y a quelque chose qui est propre à une famille, et il n'y a que la famille qui le fait, donc c'est spécifique à une famille, il y a quelque chose qui définit une famille comme une famille. Bon. Quand vous êtes là-dedans, vous essayez de faire donc des distinctions sur toutes les manières de faire communauté parmi les êtres humains, eh bien vous en arrivez à la conclusion suivante, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer un peu, c'est qu'une famille, à la différence d'un club de foot ou à la différence d'un groupe d'amis, eh bien une famille, ça sert à une seule chose. Donc qui est spécifique, donc qui est propre à la famille. Une famille, ça sert à être quitté. Ça ne sert qu'à ça. Donc ce qui n'exclut pas, vous comprenez bien, qu'on soit heureux dans sa famille, qu'on s'épanouisse, etc. Mais un groupe d'amis, c'est pas fait pour être quitté. Vous pouvez quitter un groupe d'amis, mais c'est pas l'objet du groupe d'amis. D'accord ? Une équipe de foot, pareil. On peut aussi sortir d'une équipe de foot ou de basket, enfin tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le but de l'équipe de foot. Le but de l'équipe de foot, c'est d'aller gagner, de mettre des goals. Une famille, son boulot, quelle que soit la manière de faire, c'est de pouvoir être quitté un jour, et être quitté par qui? Être quitté par les enfants, évidemment. Alors, il y a une phrase qui illustre, pour essayer de comprendre ça maintenant. Donc ça, c'est la thèse de départ. Avec le temps que j'ai, je ne peux pas trop aller développer l'affaire et introduire plus. Il y a une phrase quand même que je vous donne qui permet de commencer à comprendre pourquoi une famille s'est fait pour être quittée, ou bien, si vous voulez, en quel sens il faut entendre cette phrase-là. C'est une phrase qui dit « Un enfant naît de sa mère, puis il naît de son père, et enfin, il naît à lui-même. » D'accord ? Donc un enfant naît de sa mère, puis il naît de son père, et enfin il naît à lui-même. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour qu'un enfant puisse naître à lui-même, il faut qu'il ait eu dans sa vie, à un moment donné, quelqu'un qui a joué le rôle de mère et quelqu'un qui a joué le rôle de père. Okay? Donc je dis ça comme ça, pourquoi? Parce que dans les faits, ce qu'on constate en effet, c'est que ce n'est pas... Donc ça, c'est étonnant. Et donc si vous êtes parent, c'est presque comme une blessure, mais ça, il faut l'accepter, malheureusement ou heureusement. Mais c'est que parfois, les personnes qui vont jouer le rôle de mère ou les personnes qui vont jouer le rôle de père ne sont pas les parents. Ça, c'est bizarre. Donc je vous raconte juste une anecdote quand même pour que vous voyez. Une dame m'explique, donc elle est née dans une famille, donc ses parents étaient là, etc. Mais donc elle est la dernière, je crois, de la fratrie, et on attendait un garçon, pas de chance, c'est une fille. Et donc, son destin, c'est qu'elle a été soignée, on l'a nourrie, enfin tout ce que vous voulez, mais pas d'attachement affectif. On voulait un garçon, c'est une fille, enfin voilà, la mère a eu du mal à investir cet enfant au-delà des soins qu'il faut donner à cet enfant. Bon. Eh bien, cette dame, donc, qui est maintenant à un certain âge, m'a expliqué, la personne qui m'a mise au monde, c'est comme ça qu'elle en parlait, donc qui a joué le rôle de mère, si vous voulez, c'est une institutrice qu'elle a rencontrée et qui l'a effectivement investie affectivement. Donc affectivement, ça veut dire, c'est parce que c'est toi et à la différence de tous les autres. Vous voyez, donc on existe affectivement dans la vie de quelqu'un quand la personne vous a élu, si vous voulez. C'est parce que c'est toi et pas les autres. Et alors, du coup, on a le sentiment d'exister comme personne à part entière. Donc, cette dame-là, vous voyez bien, donc ne nie pas le fait qu'elle a une mère, hein, qui est plus qu'une mère biologique, puisque concrètement, c'est elle qui l'a élevée. Mais il y a une femme qui l'a mise au monde pour du vrai, où là, elle s'est sentie exister comme personne à part entière, et c'est une institutrice. Et puis, son père, le vrai père, a fait son boulot. Et maintenant, c'est une dame qui vit très bien sa vie. Donc ça, quand on est parent, vous voyez bien, c'est quelque chose qui est finalement positif, même si sur le plan de l'orgueil, évidemment, c'est blessant. Hein, parce qu'on voudrait bien, enfin, je ne sais pas vous, mais souvent, ben voilà, c'est moi le père, c'est moi la mère, et donc personne d'autre. Et moi, je sais mieux que tout le monde ce qu'est mon enfant, etc. Eh bien, on se rend compte qu'en réalité, les enfants, ils se débrouillent et que parfois, ils vont chercher les gens qui vont les aider à grandir là où on ne s'y attend pas. Et ce n'est pas les parents, pas toujours. Donc, classiquement, c'est les parents, hein. Mais il y en a qui... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Déjà, là, vous pouvez en tirer une conséquence par rapport à notre sujet, hein. C'est que si vous traversez des moments dans une famille qui sont des moments difficiles, en soi, c'est pas une catastrophe. La question, c'est de savoir si vous avez permis à vos enfants d'avoir plein de relais partout autour d'eux. Et alors ça, on ne le contrôle pas. Mais si vous avez couvé vos enfants et empêché d'avoir des relations avec d'autres adultes, ben vous les avez isolés, ça c'est une catastrophe. Mais si vous leur avez permis, il y a des tantes, il y a des oncles, il y a des amis, enfin je sais pas quoi, moi, tout, et puis il y a l'école avec des gens qu'on rencontre là aussi, enfin bref, s'ils peuvent potentiellement avoir plein d'attaches en dehors de la relation avec vous-même en tant que père ou que mère, vous multipliez les chances pour un enfant, malgré les moments difficiles vécus, vous multipliez les chances qu'il puisse s'accrocher à quelqu'un qui va les aider dans ces moments difficiles. Voilà. Donc il faut, je reprends ma phrase, il faut, donc un enfant naît d'abord de sa mère ou de quelqu'un qui va jouer ce rôle-là, quand on est soi-même en souffrance, en difficulté, qu'on n'y arrive plus, ben heureusement qu'il y en a d'autres qui peuvent prendre leur lait, puis il naît de son père ou de quelqu'un qui va jouer ce rôle-là. Et maintenant ce que dit la phrase, donc, pour naître à soi-même, il faut avoir eu quelqu'un qui a joué le rôle de père et de mère, mais ce que dit la phrase aussi, maintenant dans l'autre sens, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir eu une mère et un père, ou quelqu'un qui a joué ce rôle-là, l'un et l'autre, mais en plus, à vos souhaits, mais en plus, comment ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut encore naître à soi-même. Ce qui veut dire quoi? Ben, par rapport à la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, donc il ne suffit pas d'avoir eu une mère et un père, mais il faut encore les quitter. Et ce n'est que, c'est ça qui est bizarre, hein, quand on, enfin, c'est pas contre-intuitif, mais enfin c'est peut-être un peu bizarre, mais je ne peux devenir moi-même qu'à la condition de quitter mon père et ma mère. Voilà. Alors, pour maintenant essayer de comprendre ce qui est en jeu là-derrière, et puis revenir alors au contexte de séparation, hein, pour que vous, parce que c'est de ça qu'on doit parler évidemment, dans des contextes de séparation, ben voilà, on pourrait se dire, ben c'est pas grave, puisqu'il faut quitter sa famille, ben voilà, le travail est fait. Hein, si les parents se séparent, il n'y a plus de famille, l'affaire est réglée. Ben, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, pour essayer de le comprendre, donc voilà comment j'ai l'habitude de raconter l'affaire, c'est de prendre le contre-exemple. Donc, non pas de vous parler de comment on quitte sa famille, mais quelles sont les familles qui empêchent de pouvoir être quittées. Et alors, en vous racontant les choses de cette façon-là, donc par la négative, donc les familles qui empêchent que les enfants puissent partir, vous allez comprendre en quoi, effectivement, ça empêche de naître à soi-même, en quoi c'est destructeur, si vous voulez. En tout cas, en quoi ça va compliquer la vie des enfants. Alors, quelles sont les familles qu'on ne peut pas quitter? Donc, puisque c'est par ce biais-là que je vous propose de réfléchir un peu, Eh bien, en fait, quand de nouveau vous écoutez des histoires, donc le tout c'est de partir d'histoires, hein, de situations rencontrées. Donc moi j'ai la chance évidemment de pouvoir lire beaucoup, je suis payé pour ça même, j'ose vous dire. Et puis alors après, par les conférences que je donne à gauche, ben voilà, je rencontre des gens qui me racontent un peu leur histoire. Donc voilà, enfin, moi, ça m'alimente évidemment et ça me permet d'avoir une base pour essayer de penser les choses. Eh bien, quand vous regardez toutes ces histoires que l'on peut raconter, donc parce qu'une famille n'est pas l'autre, enfin voilà, ça va dans tous les sens, on peut quand même généraliser et dire, finalement, apparemment, il y a grosso modo deux types de familles qu'on ne sait pas quitter. Et ces deux types de familles, vous allez voir, vont se subdiviser en deux aussi. Enfin, bon, je vais vous donner les exemples tout de suite. Alors, le premier type de famille qu'on ne peut pas quitter, c'est quoi ? Ce sont les familles absentes. Donc, vous comprenez l'idée. Donc, comment voulez-vous que je quitte une famille si j'en ai pas eu ? Alors, ça va vous donner quoi ? Pour que vous voyez maintenant les problèmes arriver, qui ne sont pas forcément des problèmes spectaculaires, mais qui sont des problèmes terribles, en fait, même si ça n'a pas une apparence catastrophique. C'est que si je ne peux pas quitter une famille que je n'ai pas eue, ben ça c'est clair. Hein, donc concrètement, donc de nouveau, il faut revenir toujours au concret et pas faire des théories comme ça dans le ciel. Concrètement, ça vous donne quoi ? Ben, je peux grandir dans cette famille-là. Ce n'est pas un problème en soi. Hein, donc même si donc, cette famille est absente, etc., je peux quand même m'en sortir. Mais sauf que devenu adulte, et c'est là qu'on commence à voir ce qu'on veut dire par « naître à soi », quand je suis devenu adulte, je risque d'être et de rester un adulte qui est et qui vit dans le manque de cette famille que je n'ai pas eue. Et de rester ainsi dans le manque, dans le reproche de cette famille que je n'ai pas eue, ou dans cette souffrance tout simplement de cette famille que je n'ai pas eue, eh bien on vous dira que c'est une façon de rester cet enfant qui a souffert de ne pas avoir eu son père ou sa mère, ou les deux éventuellement. Et voilà que je suis condamné, quand bien même je deviens adulte, quand bien même éventuellement je fonde moi-même une famille, quand bien même j'ai un boulot, enfin apparemment, vu de l'extérieur, tout va bien, et bien n'empêche que je suis condamné à rester un enfant qui est constamment dans le reproche de « j'ai pas connu mon père, j'ai pas connu ma mère » ou je sais pas quoi d'autre, enfin en fonction des circonstances. Ça c'est une façon de ne pas savoir quitter sa famille, rester un enfant qui a des reproches à formuler à ses parents. Okay. Alors vous voyez maintenant le lien avec les séparations. Donc si je vous raconte ça, c'est pour que vous puissiez tout de suite faire le lien, ben, c'est que des parents se séparent, en fait, ce n'est pas un problème en soi. C'est la vie, c'est comme ça, c'est difficile, c'est une blessure, c'est tout ce que vous voulez, mais en soi, ce n'est pas tellement un problème. La question, c'est est-ce que ça va être vécu d'une manière telle que mon enfant pourra sortir de cette histoire qui est la nôtre ? C'est-à-dire, voyez bien, que cette séparation ne devienne pas une blessure pour cet enfant, de telle manière que, devenu adulte, il restera toute sa vie, ce qui ne l'empêchera pas de vivre par ailleurs, hein, mais il restera toute sa vie cet enfant qui trouve que c'est dégueulasse ce qui s'est passé à ce moment-là. Tant que je reste dans la colère, dans la rancœur, dans la culpabilité, dans le reproche, dans je ne sais pas quoi, enfin voilà, donc mes parents, ça ne va pas, ils ont fait n'importe quoi, ben, tant que je reste dans cette posture-là, vous comprenez, je reste un enfant, cet enfant qui a mal vécu ce qui a été vécu à ce moment-là. Donc le souci, c'est pas de savoir comment on sépare. Enfin, le souci, c'est pas de savoir si on se sépare ou pas dans un couple. Le souci, c'est quand même de savoir comment on va le faire pour que ces enfants ne deviennent pas otages de ce qui concerne les parents et qui ne devrait concerner que les parents. On sait qu'ils vont de toute façon trinquer, d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est leur monde qui bascule. Souvenez-vous ce qu'on a vu ce matin. Mais n'empêche que voilà, comment travailler l'affaire, comment accompagner l'affaire pour que les enfants puissent sortir de cette histoire et que notre séparation reste notre séparation et que ça ne devienne pas son problème à lui, que lui va devoir essayer de résoudre dans son couple, avec ses enfants ou je ne sais pas quoi d'autre, enfin bref, quelqu'un qui ne serait plus qu'un enfant qui essaye de régler un problème qu'il a vécu en tant qu'enfant. Okay ? Alors, les familles absentes, maintenant, concrètement, ça vous donne quoi ? Donc, je vous disais, ça peut se subdiviser en deux prototypes. Donc chaque famille est différente, hein, mais quand vous généralisez à outrance, alors vous avez d'abord les familles qui sont donc physiquement absentes, donc réellement absentes. Donc dans une séparation, pour de nouveau rester dans le contexte dans lequel on est, il arrive qu'il y ait donc des couples qui se séparent, et le plus souvent, si vous prenez ce qu'on entend le plus souvent, ce que moi j'entends le plus souvent et ce que je lis le plus souvent, c'est le père qui disparaît dans la nature. Voilà, mais ça peut être la maman, mais c'est plus rare, et alors on en parle plus parce que c'est d'autant plus exceptionnel. Mais ça peut être la maman qui disparaît dans la nature, hein. Donc ça existe aussi. Mais enfin voilà, peu importe, de toute façon, ce n'est pas un concours pour savoir si c'est les hommes ou les femmes qui sont champions dans l'affaire, mais peu importe lequel des deux, mais si un des deux, à l'occasion d'une séparation, disparaît, coupe les ponts, les liens ne communiquent plus, enfin voilà, disparaît tout simplement de la vie, ben, vous risquez, c'est jamais qu'un risque, hein, donc ce n'est pas écrit à l'avance, mais vous risquez d'avoir un enfant qui va donc grandir sans son père ou sans sa mère dans un contexte de rupture. Et du coup, eh bien, quand on devient adulte, ça peut vous donner, hein, dans un scénario classique, quelqu'un qui va dire ben, « mon père, par exemple, eh ben, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait, je lui en veux de ne jamais avoir fait l'effort de nous expliquer, de venir nous retrouver. » Et quand le père est mort, donc, parce que parfois, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, et quand le père est mort, ben, c'est trop tard, et donc je vais vivre toute ma vie avec ce reproche adressé à un père ou à une mère absent ou absente. D'accord ? Donc, vous voyez, et c'est en cela que je vais rester un enfant. Cette souffrance de ne pas avoir... Par exemple, dans des situations plus ordinaires, comme quoi il ne faut pas se séparer pour vivre ça. Hein, quand on discute avec des gens, il y a des gens qui vous disent « Mon père, ben oui, ben, mes parents sont restés ensemble, mais mon père travaillait tout le temps. Même le 11 novembre. Bon. Donc, il n'était jamais à la maison. Et donc, il travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, de telle sorte que maintenant qu'il est mort... Ben, si je devais vous dire qui est mon père, ben, je ne sais même pas vous le dire. Quand il revenait à la maison et qu'il était là, il était tellement fatigué qu'il fallait qu'on lui foute la paix. Et donc, j'ai rien vécu avec. Mais donc, si j'ai rien vécu avec, qu'est-ce que vous voulez que je quitte ? Et donc, mon père, c'est une absence. Voilà. Et donc, c'est une souffrance. Et puis, alors, il y a des gens qui vont plus loin. Ça dépend des scénarios. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon père ne m'aime pas ? Est-ce que je ne suis pas aimable ? Enfin, vous voyez, ça peut parfois prendre des tournures comme ça qui vont très loin. Hein, j'ai l'impression qu'il aimait mieux les autres que moi. Enfin, voilà. Et vous êtes parti dans des affaires. Mais vous pouvez entendre ça chez des gens qui ont 60 ans. Hein. Et donc, c'est terrible de voir que donc, ce sont des gens qui ont 60 ans peut-être, mais qui sont restés un enfant en souffrance, vu l'absence du père ou de la mère, bien évidemment. Je vais vous raconter une autre histoire pour rendre ça le plus concret possible. Là, c'est par rapport à un décès. C'est une dame que je rencontre en soins palliatifs. Quand je raconte ça, je repense toujours à elle. Et elle va mourir. Et elle me dit, en tout cas, j'espère que quand je serai de l'autre côté, je verrai enfin ma mère. Alors, je ne comprends pas, donc, parce que j'imagine, moi, qu'elle elle a connu sa mère. Hein. Et en fait, elle m'explique que donc on est au début du XXe siècle, et à cette époque-là, jusqu'au moment de la guerre 40, hein, c'est vrai que malheureusement, les femmes pouvaient décéder en mettant au monde leur enfant, et c'est ce qui est arrivé à cette dame-là, donc sa maman est décédée à l'accouchement. Et donc, ce qu'il y a eu, m'explique-t-elle, c'est une chape de plomb. Donc on ne parle pas de ces choses-là. Donc elle a été éduquée par sa grand-mère, donc elle a été éduquée, elle a fait sa vie, enfin moi je la vois là, et pour ce qu'elle me raconte, manifestement, elle a fondé elle-même une famille, elle a travaillé, elle a connu la guerre, enfin tout ce que vous voulez, donc pas de souci quoi, hein. Donc elle a vécu. Mais voilà que donc sur son lit de mort, ce qui sort qu'elle dit à un inconnu, c'est « en tout cas j'espère que de l'autre côté je verrai ma mère ». Et donc de m'expliquer que, voilà, mère absente, dont on ne m'a rien dit, je sais que j'ai une mère évidemment, j'ai le nom de ma mère, ça on lui a quand même dit, mais est-ce qu'elle était gentille, pas gentille, est-ce qu'elle était jolie, pas jolie, enfin je ne sais pas quoi, toutes les questions qu'on peut se poser, à quoi elle ressemblait, est-ce que je lui ressemble ou pas, enfin vous voyez toutes ces bêtises-là, enfin des bêtises, c'est important, mais enfin c'est des anecdotes, ben rien, absence, silence. Eh bien, donc l'hypothèse qu'on peut faire quand on entend cela, donc j'aurais dû discuter avec elle, mais enfin bon, ici, moi, je ne l'ai vue qu'une fois, hein, cette dame-là, mais c'est probablement quelqu'un qui, quand bien même elle a mené sa vie, est resté cet enfant en manque d'une maman, dont on ne lui a jamais rien dit, elle n'a même pas vu une photo. Voilà. Et c'est en cela qu'elle n'a pas pu quitter sa famille, évidemment. D'accord ? Parce que, voilà, donc ici, ce n'est pas des reproches. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme reproche vis-à-vis de la mort ? Mais c'est voilà, une souffrance, une absence, enfin insupportable. Enfin bref. Donc ça, c'est le premier cas de figure des familles absentes. Ce sont les familles où un des deux, voire les deux, parents disparaissent dans la nature. Et du coup, ben, ça blesse et on vit avec cette blessure. Et en tant qu'on vit avec cette blessure, on reste un enfant aussi longtemps qu'on est blessé ainsi. Et il y a des gens, malheureusement, ce sera jusqu'à leur mort par conséquent. Et puis vous avez un autre type d'absence, et ça aussi pendant les séparations, ça peut arriver malheureusement, ou bien suite à des séparations, ça peut arriver. Ce sont les gens qui sont là, donc mon père et ma mère, même s'ils sont séparés, je les vois, d'accord, donc ils ne sont pas partis dans la nature, mais ils sont mentalement absents. Et ça, ça peut être le résultat d'une séparation qui a été mal vécue, donc où de fait on est tellement blessé, hein, en tant que mère ou en tant que père, par la séparation, qu'il n'y a plus que ça qui obsède le parent concerné. Voilà, je suis blessé, je suis blessé dans mon amour propre, j'ai plus confiance en moi, enfin, l'autre m'a fait un tour de cochon, là, je ne comprends pas, et toute ma vie, je ne comprendrai pas ce qui m'est arrivé là. Et tellement pris par cette histoire qui reste une blessure vive, que du coup, je ne suis plus disponible pour mon enfant. Comprenez ? Donc voilà, donc ça reste un deuil duquel je ne vais jamais me remettre, en quelque façon. Quand vous êtes l'enfant face à quelqu'un comme ça, qui est blessé par la vie, donc ça, on ne peut pas lui en vouloir. Donc voilà, c'est comme ça. Mais n'empêche que, vous pouvez, donc en tant qu'enfant, vous pouvez raconter des choses, vous pouvez vous adresser à cette personne blessée, elle va dire oui, 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 mais si vous lui demandez 2 minutes après qu'est-ce qu'il a dit ton enfant, on ne sait pas. Je dis oui, 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 je suis là, enfin je réagis, mais je réagis en pilote automatique, et il n'y a pas d'investissement. Parce qu'on est encombré de cette souffrance que l'on endure et que l'on essaye de porter le plus discrètement possible. Mais enfin, c'est ça qui prend quand même toute la place. Et donc, ça vous donne des enfants, de nouveau, qui vont grandir. Ben oui, mon père et ma mère, ils étaient là, hein, éventuellement tous les deux. Mais quand je m'adresse à eux, c'est comme si je m'adressais à des meubles, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas, ils ne sont pas là. Donc, ils m'ont donné à manger, ils m'ont donné des vêtements, ils m'ont chauffé, tout ce que vous voulez. Mais aucune relation, rien, on n'a rien jamais partagé parce que la personne était encombrée d'elle-même et voilà, des blessures de sa vie, bien évidemment. Donc, vous pouvez avoir des parents présents, mais présents en étant tellement encombrés d'eux-mêmes qu'ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas là psychiquement, si vous voulez. Et donc le sentiment de « on pouvait faire ce qu'on veut, de toute façon, ils ne réagissaient pas, quoi. » On avait même l'impression d'être un fardeau, quoi, enfin, de gêner, de, enfin, je ne sais pas quoi. Et ça, ça vous donne la même chose, hein. Ça peut vous donner des gens qui vont de toute façon bien vivre leur vie par la suite, mais en restant cet enfant en reproche ou en regret de ne pas avoir eu des parents avec lesquels on peut s'amuser, faire des choses, avoir des projets, discuter, se disputer aussi éventuellement, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Donc moi je n'ai pas connu ça. Moi j'ai eu des parents absents. Voilà. Donc ça c'est 2 cas de figure. Et c'est vrai qu'il y a des circonstances donc, de séparation qui mettent les adultes dans cet état de sidération, d'encombrement, ou bien des gens qui disparaissent dans la nature, et ça vous donne des enfants qui vont être pris en otage donc, dans cette histoire-là. Et ça vous donne donc des enfants qui vont grandir, devenir adultes, mais qui n'arriveront plus à quitter cette famille. Comprenez donc, parce que voilà, je vis avec les regrets, les reproches, la colère, la culpabilité, enfin tout ce que vous voulez, qui est le fil qui me relie en permanence à cette famille. Et le risque est grand, donc dans ce que maintenant les psys nous racontent, c'est que ma vie d'adulte que je vais donc mener ne sera peut-être rien d'autre que la réponse à cette blessure que j'ai vécue enfant. Donc, par exemple, si je reprends l'histoire de la madame en fin de vie, eh bien, pour ce qu'elle m'a raconté en tout cas, j'ai compris que... Alors, c'est une hypothèse, parce qu'il faudrait lui demander après pour vérifier. Hein, mais dans ce qu'elle m'a expliqué, puisque voilà, bon, enfin, j'étais curieux enfin, je la faisais parler, quoi. Hein, ben, ses enfants, puisqu'elle a fondé elle-même une famille, c'était la prunelle de ses yeux. Et alors, elle m'a raconté des trucs, enfin, peu importe. Mais donc, moi, j'imagine, c'est comme ça que je l'ai compris. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la réalité, mais je vous dis ce que j'ai compris. À un point tel qu'elle ne lâchait pas ses enfants. Donc, alors, hypothèse maintenant, hypothèse donc purement gratuite, hein, donc là, avec toutes les précautions qui s'imposent, mais on peut se demander, est-ce que c'est parce que c'était sa manière d'être et puis c'est tout ? Ben, si c'est le cas, c'est très bien. Hein, mais ou bien est-ce que c'était sa réponse à ce qu'elle a vécu elle-même, moi j'ai vécu sans ma mère, eh bien avec mes enfants, je ferai tout pour que ça ne soit pas le cas. Vous voyez ? Et du coup, ce n'est plus un choix libre, ça devient en fait ce que ma blessure d'enfant fait de moi. Et de telle manière que vous pourriez avoir, ça c'est pas dans cette histoire-ci, mais dans d'autres histoires, vous pourriez avoir des enfants qui ont l'impression, et c'est plus que l'impression, que ma mère, ben, elle est présente, elle dit m'aimer, etc., et c'est pas ça qu'on remet en question, mais elle le fait d'une manière qui n'est pas en lien avec nous, mais qui lui permet à elle de régler ses comptes avec sa propre famille d'origine. Et moi, là-dedans, quand je suis enfant, j'ai l'impression de n'être que le moyen par lequel elle essaye de compenser une blessure, quoi, si vous voulez. Vous voyez, et vous voyez comment on, avec les meilleures intentions du monde, hein, comment on peut commencer à déformer les relations, les parasiter avec des trucs qui laissent finalement chez les enfants un goût de trop peu, le goût de « ben oui, ma mère était là, elle faisait tout pour nous, mais ça sonnait faux, quoi ». Vous voyez, quelque chose de ce genre-là. Enfin, voilà, je sais pas. Donc ici, moi, je n'ai pas rencontré les enfants de la dame, donc je ne sais pas vous dire si c'est ça qui a été vécu. Mais vous voyez un peu en quoi on ne peut pas donc sortir de sa famille. Et le risque, c'est que quand on a vécu comme ça des relations qui, ça sonnait faux, ben vous voyez, me voilà maintenant moi-même piégé. Si un jour j'ai des enfants, moi, en tout cas, je leur dirai toute la vérité, toujours, tout le temps, en toutes circonstances. Parce que c'est horrible d'être dans la fausseté, d'être dans le mensonge, le non-dit. Mais du coup, je ne fais que transmettre. Donc vous voyez bien une blessure, mais qui est devenue la mienne maintenant, parce que moi j'ai subi cette relation-là, et mes enfants vont rester enfermés de nouveau dans... Et donc c'est de génération en génération que vous transmettez un problème qui n'a pas trouvé de solution, quoi. Donc enfin voilà, donc quand vous lisez les psys, c'est terrible ces histoires-là. Ils vous racontent des histoires, et c'est sur plusieurs générations que ça se passe. Donc c'est hyper important de se demander... Quand on fonde une famille, quand on a des enfants, mais qu'est-ce qu'on met en place pour qu'ils puissent sortir de tous ces malentendus hérités du passé, de toutes ces histoires dans lesquelles on est, de telle manière que leur vie, ça ne soit pas la tentative désespérée d'essayer de régler les problèmes des parents. Mais alors, donc ça, c'est pour les familles absentes. Maintenant, vous avez un autre modèle de famille aussi qui peut laisser des traces et empêcher donc les enfants de partir. Et de nouveau, il y a des séparations qui vont jouer avec ça, malheureusement. C'est l'inverse des précédentes. C'est ce qu'on appelle les familles trop présentes. Tellement présentes, donc vous avez l'idée tout de suite, hein, tellement présentes qu'elles tiennent les enfants et que jamais ils ne pourront partir. D'accord ? Alors ça vous donne, là aussi, vous avez deux cas de figure qu'on peut distinguer quand vous faites à la grosse louche, quand vous regardez des familles, vous laissez tomber les différences et vous regardez un peu la dynamique qu'il y a là-dedans. Vous avez d'abord les familles qui sont dans l'abus de pouvoir. Donc l'abus de pouvoir, ce sont des parents très autoritaires, très présents, un des deux au moins, d'accord ? C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ce sont des parents, ou un des deux parents, qui va imposer ses désirs aux enfants. Tu feras comme j'ai décidé. Mais c'est dit d'une manière telle que quand vous êtes enfant, vous avez compris que c'est comme ça et pas autrement. Et du coup, vous allez vous construire à partir du désir de vos parents. D'accord ? Donc c'est l'abus de pouvoir, si vous voulez. Donc c'est pas simplement qu'on donne des conseils, mais on vous fait bien comprendre. Et si vous faites un pas de côté, vous en prenez une. Hein, et on vous remet dans le droit chemin. Ben, donc quand vous êtes un petit enfant et que vous vous construisez dans ce contexte-là, ben c'est... Quoi que vous désiriez, ce sera toujours par rapport, mais qu'est-ce que mon père va dire, qu'est-ce que ma mère va dire, enfin. Et ça vous donne des adultes, cette affaire-là, donc c'est terrible, hein, quand c'est vraiment de l'abus de pouvoir caractérisé, ça vous donne des adultes, même quand les parents sont morts, qui ne peuvent pas s'empêcher de continuer à se comprendre par rapport à leurs parents. Donc par exemple, vous avez des parents qui décèdent, alors quand on connaît quelqu'un qui est comme ça pris, en otage par le désir de ses parents ou d'un des deux. Donc on lui dit, maintenant qu'il est mort, profite. Tu peux faire enfin ce que tu veux. Et alors, il y a des témoignages, donc c'est troublant. Donc il y en a qui y arrivent, évidemment. Ils attendent la mort de leurs parents pour pouvoir enfin commencer à en profiter. Mais il y en a qui vous racontent, eh bien c'est horrible. Parce qu'ils sont morts peut-être, mais quand j'essaye de désirer quelque chose qui soit un désir personnel... Donc je peux. Donc maintenant, je me sens libre de pouvoir désirer faire quelque chose. Voilà. Mais quand je prends conscience, parce qu'il n'y a rien à faire, j'ai le pli qui est pris, je pense que ça pourrait décevoir mon père ou ma mère, quand bien même ils sont morts, hein, eh bien ça me fige et ça me rend incapable de pouvoir passer à l'acte. Et donc vous avez des gens qui deviennent des adultes, d'accord, ça ne les empêche pas d'être adultes et de mener leur vie, mais qui ne peuvent pas faire autrement que de se comprendre en permanence par rapport au désir de papa et maman. Ben, cette manière-là de vivre, même quand on est adulte, et jusqu'à la fin de ses jours, hein, donc ce n'est pas une question d'âge, eh bien, c'est une façon de rester enfant. Je ne peux pas faire autrement que de me comprendre par rapport à l'autorité de mon père ou de ma mère. Et donc on ne grandit pas. Enfin, si je grandis, je vieillis. C'est ça qui est terrible, si vous voulez. Ce qu'on devrait dire, c'est qu'on vieillit, mais sans grandir. Et ça, c'est la catastrophe. Enfin, on n'oserait pas dire que c'est des vies perdues. ou des vies gâchées, mais c'est du temps perdu. Enfin, vous comprenez, il y a quelque chose qui n'arrive pas à naître, quoi. C'est-à-dire, je n'arrive pas, pour reprendre la formule, à naître à moi-même. Toute ma vie, ce ne sera rien d'autre que de constamment me comparer à ce que mon père ou ma mère voudraient que je fasse. Il y a des familles, par exemple, je vais vous donner un exemple, par rapport à la séparation, il y a des gens qui vont vivre une séparation comme une catastrophe, simplement parce que je sais que ça va décevoir mon père ou ma mère. Et quand bien même mon père ou ma mère sont morts maintenant, et que la séparation n'a lieu qu'après le décès de mes parents, savoir que ça les aurait blessés ou choqués ou déçus, le fait que mon couple n'ait pas tenu, que je n'ai pas été capable de le faire vivre, eh bien, c'est des gens qui sont détruits, quoi. Eh bien, le problème, vous voyez bien, ce n'est pas qu'on se soit séparé. Le problème, c'est que je n'arrive à vivre ma séparation que comme un enfant qui se comprend encore par rapport à ses parents. Et donc, ce qu'il faut travailler, ce n'est pas la séparation. Ce qu'il faut travailler, c'est « mais pourquoi est-ce que vous vous comparez encore à ce que vos parents... » Non, c'est même pire que ça. « À ce que vous imaginez que vos parents vous auraient dit. » Mais il y a des gens, on a beau leur dire, ça reste intellectuel, parce que le pli est pris dans leur manière d'être, et donc, c'est plus fort qu'eux. Vous voyez, et si on n'a pas fait le travail en amont, ben quand vous avez, je sais pas moi, 40, 50, 60 ans, ça devient plus difficile de défaire ce que vous avez vécu pendant 40, 50 ou 60 ans, évidemment. Hein. Donc, quand vous avez en tête une famille, c'est fait pour être quitté, la question c'est qu'est-ce que je mets en place pour que, si possible, autant que faire se peut, mon enfant ne devienne pas un adulte qui est pris dans des problèmes qui ne sont pas les siens, quoi. Alors, donc vous avez les familles à but de pouvoir. Alors oui, alors vous avez une alternative, hein, remarquez bien. Dans les tentatives d'en sortir, vous avez des gens qui disent « Moi, mes parents m'ont tellement pourri la vie que, même de leur vivant, j'ai fait tout le contraire de ce qu'ils auraient bien aimé, rien que pour les embêter. Comme ça, vive ma liberté. » Vous voyez, donc c'est dans la révolte et dans l'opposition. Ben, évidemment. Alors, ou bien alors, vous avez une variante, vous avez des gens qui disent ben, « Moi, je ne m'empêche pas de vivre ma vie. » Mais le truc, c'est quoi? C'est que, tout simplement, je fais mes coups en douce et je ne préviens pas mes parents et je ne leur dis pas. Ben, on aurait envie de... Donc, vous voyez bien, ce qu'on essaye de vous vendre ici, c'est même quand on a des parents qui sont dans l'abus de pouvoir, il y a encore moyen quand même de vivre sa vie. Ben, sauf qu'on a évidemment envie de répondre, mais si vous avez besoin de cacher à vos parents ce que vous faites, ben, vous continuez à vivre comme un enfant qui essaye de faire ses coups en douce sans que papa et maman le sachent, quoi. Et si vous avez claqué la porte... Et plus vous allez en faire, plus vous aurez du plaisir parce que vous savez que ça va embêter vos parents. Hein, donc voilà, je prends ma liberté et c'est pas grave si ça les embête. Et ben c'est même bien que ça les embête. Hein, ils m'ont tellement pourri la vie. Ben, si vous avez besoin de vous venger en essayant de les embêter, en faisant tout le contraire de ce qu'ils attendent, etc., ben, c'est encore une autre manière de rester un enfant et de vous comprendre encore par rapport aux désirs de papa et maman. Et vous n'en sortez pas. Donc vous voyez, quand vous avez des parents qui sont, ou un des deux, qui sont dans l'abus de pouvoir. Et ça peut arriver hein, dans des séparations. Vous pouvez avoir des adultes qui sont blessés par la séparation qu'ils ont vécue. Et depuis ce jour-là, souvenez-vous de ce qu'on a vu ce matin, ils vont être dans la violence. Vous voyez, donc maintenant, il y a tout qui m'énerve, quoi. Je suis blessé, je me méfie de tout. Je me méfie, donc si je suis une femme, je me méfie des hommes. Si je suis un homme, je me méfie des femmes. Puis mes enfants, ben, qui sont des garçons ou des filles, ben, je vais m'en méfier. Donc maintenant, je vais les tenir. Et on peut devenir un bourreau de ses enfants, pas par vengeance, mais par blessure suite à une séparation. Voilà, il y a des gens qui vont devenir insupportables parce que tout les blesse, tout le... enfin, voilà, parce qu'ils ne sont plus capables de prendre un peu de distance, évidemment. Et puis vous avez un deuxième modèle de famille trop présente, là aussi quand vous généralisez, hein, c'est tout simplement donc non plus les familles qui sont dans l'abus de pouvoir, donc dans la violence, j'impose mes désirs, je sais mieux que toi ce qui est bien pour toi, enfin bon, c'est pas ça du tout. Ici, vous allez avoir des familles trop présentes par excès d'amour. Donc il y a, si vous voulez, des amours maladroits. Et ça, il faut le savoir, donc des amours destructeurs qui vont condamner des gens à rester des enfants. Donc, par exemple, mes parents ont tellement tout fait pour moi, d'accord, par amour. Donc, quand j'étais enfant, ils se sont occupés de moi, mais j'étais le roi à la maison, un prince à la maison. Puis quand je me suis mis dans les études, ils m'ont payé un cote, ils m'ont payé une bagnole, ils m'ont payé tout. Enfin, ils étaient tout le temps là pour me faire plaisir. Et puis quand je me suis marié, ils m'ont payé la machine à laver. Enfin, c'était incroyable. Tout le temps là, le moindre désir exprimé, boum, il vient. Parce qu'il m'aime, il dégouline d'amour. Eh bien, vous imaginez bien le jour où je devrais vivre ma petite vie à moi. Et si jamais ce que je désire est quelque chose qui pourrait choquer mes parents, les décevoir, ne pas être tout à fait à la hauteur de leurs espérances, ou que sais-je d'autre, mais faire ça à des parents qui vous ont tout donné, mais c'est être un salaud, hein, de faire quelque chose qui pourrait les décevoir. Et voilà que quand on est pris dans ce désir amoureux des parents, donc ici par excès d'amour, d'accord, eh bien voilà que je me sens redevable. Et toute ma vie, je me sentirai incapable de pouvoir faire quelque chose où j'imagine que ça pourrait décevoir ces gens qui m'ont tellement tout donné. Mais c'est, donc ça, c'est un scénario possible, vous voyez, où je n'arrive pas à naître à moi-même. Quoi que je fasse, je vais encore me comprendre par rapport à l'amour de mes parents et je vais essayer de me régler sur cet amour qui m'oblige quand même à être redevable d'une façon ou d'une autre. Ben, on a beau dire, hein, dans la pensée chrétienne, c'est vrai qu'on a tout un discours sur la dette. Hein, donc on a une dette, on est redevable, on a reçu la vie, on est redevable de quelque chose. Mais vous comprenez que dans le scénario que je vous décris ici, ça devient une pathologie. Hein. Parce que si la dette est ce qui vous empêche de pouvoir vivre votre vie, cette dette, ce n'est pas un don, c'est un... Donc la vie que vous avez reçue n'est plus un don, ça devient un échange, ça devient du commerce, si vous voulez, et voilà que vous êtes pris en otage avec une dette que vous ne pourrez jamais rembourser, enfin, et votre vie est foutue. Hein. Donc enfin, clairement, vous ne savez plus en sortir de cette affaire-là. Donc, alors maintenant, vous avez des gens, sans rentrer dans tout ce que je vous raconte, qui sont tellement... Ils ont eu le sentiment d'être tellement aimés par leurs parents... Ben, qu'ils n'arrivent pas à s'identifier à autre chose que, ou à comparer toutes leurs relations d'amitié et d'amour, de la comparer toujours à cet amour qu'ils ont reçu de ses parents. Et là, vous vous rendez compte que, évidemment, ça rend les relations impossibles. Hein, quand je suis, par exemple, quelqu'un qui a été aimé par mes parents à l'infini, quand je vis avec mon épouse, ben, vous imaginez le point de comparaison que j'ai. Moi, je me suis senti aimé à l'infini, j'étais le prince à la famille, etc. Et puis voilà que je me retrouve avec une femme qui n'est pas ma mère, déjà premier défaut, et qui, en tout cas, ne m'aimera pas comme ma mère m'a aimé, même si elle m'aime sincèrement, mais autrement, mais en tout cas, ce ne sera pas comme ma mère. Ben, je la mets déjà en échec. Hein. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle n'y arrivera jamais. Et donc, c'est une relation qui est impossible. Donc vous voyez, naître à soi-même, ça veut dire, est-ce que j'arrive à sortir, y compris de l'amour de mes parents, de façon à ce que quand j'ai une relation avec quelqu'un d'autre, ou avec mes enfants, ou avec qui vous voulez, hein, ça soit une relation pour elle-même, et pas en comparaison avec ce que j'ai eu quand j'étais jeune et que j'étais enfant. Parce que sinon, vous enfermez les autres dans une histoire qui n'est pas la leur. Hein. Comment voulez-vous que votre conjoint s'en sort s'il doit se comparer à ce qu'ont été vos parents? Enfin, vous comprenez, c'est un machin qui est mal emmanché avant de commencer. Hein. Donc évidemment que ça, c'est toutes les raisons pour que ça foire. Hein. C'est ce genre de... Ou bien alors, c'est que vous avez un partenaire qui aime bien de se flageller. Ça, c'est possible. Mais si la personne est en bonne santé, enfin non, on sort de ces relations-là. Hein. C'est insupportable, évidemment, d'être comparé toujours à un autre. Un peu comme ceci dit, c'est un peu le même problème que l'on a sur ce point-là précis quand vous avez donc des gens qui se remettent en ménage. Et il arrive, dans des histoires qu'on m'a racontées, que le nouveau partenaire, à un moment donné, se sente comparé à l'ancien partenaire. Et là aussi, ben, c'est le même truc. À un moment donné, c'est « oui, mais est-ce que tu m'aimes ?» ou bien « est-ce que c'est l'autre que tu aimes toujours ?» quoi. Comprenez ? Enfin, ouais. Donc si on n'arrive pas à sortir d'une relation de couple numéro 1, ben, c'est vrai que vous risquez d'emprisonner le partenaire numéro 2 en le comparant à la relation numéro 1. Et du coup, l'autre, il ne sait plus ce qu'il doit faire pour... Est-ce que c'est moi qui ai le droit de t'aimer comme je t'aime ou bien est-ce que je dois t'aimer comme l'autre t'aimait en faisant mieux que l'autre, si possible ? C'est des histoires où on devient fou. Hein. Donc, naître à soi, ça demande... C'est curieux, hein, mais ça demande de pouvoir sortir donc, de familles qui sont absentes. Comment est-ce que je peux essayer de ne plus être l'objet ou le résultat de cette famille absente qui m'a fait souffrir ? Comment je peux sortir de cette souffrance ? Ou c'est... Naître à soi, c'est essayer de sortir de familles trop présentes, oser désirer par soi-même, même si ça peut blesser mes parents, que mes parents soient dans l'abus de pouvoir ou qu'ils soient dans l'excès d'amour, eh bien, ça, c'est leur problème. Moi, j'ai le droit de vivre ma vie. Voilà. Parce que quand on s'aime, hein, ou quand on a des enfants, enfin, peu importe, ben, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire advenir, si vous voulez, c'est la personne en tant que personne, quoi. Donc, c'est parce que c'est toi, à la différence de tous les autres. Et donc, ce n'est pas toi comme ma mère ou comme mon père. Non, c'est toi et rien que toi. Ben voilà, c'est comment est-ce que je peux permettre à l'autre et me permettre à moi de devenir cette personne unique et irremplaçable. Ce à quoi nous sommes tous appelés d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les aventures, quel que soit le chemin que l'on parcourt. Alors, donc, vous voyez le lien qui n'est pas direct, mais qui est une des conséquences. Si c'est vrai qu'une famille... Maintenant, vous comprenez. Enfin, j'espère que, de fait, le but du jeu, c'est de sortir d'une famille, de sortir de son histoire, de sortir de ses blessures, de ses malentendus, de tout, enfin, voilà, de tout un bazar, pour donner une chance à un enfant de pouvoir être lui-même. Ben, vous comprenez que les séparations qui sont inévitables quand elles adviennent, le problème, c'est pas la séparation, c'est comment vous allez vous débrouiller pour que cette séparation ne devienne pas le fardeau que vous mettez sur l'épaule de vos enfants. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu principal. Et puis maintenant, si vous mettez toutes les pièces du puzzle ensemble, avec ce qu'on a vu ce matin, ben, pour essayer de faire attention à ce problème-là, parce que l'enjeu, c'est l'avenir de ces enfants, et les enfants peuvent bien vivre, même quand les parents se séparent. Mais ils peuvent être détruits quand les parents se séparent aussi. Hein. Ben, pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas ce scénario-là, le deuxième, qui se réalise, eh bien, une grille de lecture que je vous ai proposée ce matin, c'est de dire, ben voilà, donc, si on se sépare, on met nos enfants en situation de deuil. Et donc, c'est comment on va les aider à pouvoir traverser ce deuil. De façon à ce qu'ils n'y restent pas enfermés dans la souffrance, dans la fuite, dans la violence, etc. Et de façon à ce qu'ils puissent, à un moment donné, quand même, reprendre leur histoire sans avoir besoin de sauver quoi que ce soit du côté de papa et maman. Enfin, pour dire les choses simplement. Maintenant, oui, ben je vais juste terminer alors avec ceci. Donc, c'est dans les indications générales que l'on peut donner sur ce sujet-là, c'est comment sait-on maintenant, parce qu'on est entre adultes ici, comment sait-on que, parce que vous avez tous eu aussi des parents, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Mais la question, c'est donc de savoir, mais est-ce que vous avez pu quitter vos parents? Donc, comment est-ce qu'on sait, nous, comme personne à part entière, que ben, ce travail-là, on a pu en bénéficier plus ou moins, oui ou non? Ben, d'abord, vous pouvez faire une introspection. Donc ça il ne faut pas le faire en public, évidemment, ça ne regarde que vous. Mais d'abord de vous dire, mais c'est vrai, est-ce que j'ose vivre en dehors des attentes de mes parents, par exemple? Est-ce que j'arrive à désirer par moi-même, même si ça ne fait pas plaisir à mes parents? Est-ce que, enfin, voilà, ce genre de trucs, donc ça, vous pouvez voir. Est-ce que j'ai toujours de la colère vis-à-vis d'eux? Est-ce que j'ai toujours de la rancune? Enfin, si je les retrouvais, donc s'ils sont décédés, par exemple, et si je devais les voir, est-ce que j'aurais des reproches encore à leur adresser ou pas? Ben, selon la réponse, si vous dites oui, il y a toujours des trucs que je leur en veux, ben, probablement que c'est le fil par lequel vous êtes encore relié à votre famille. Et que vous n'en êtes pas tout à fait sorti par conséquent. Maintenant, de façon plus générale, moi, ce que j'ai trouvé comme façon de dire, pour essayer de vérifier, c'est la façon suivante. Quand vous pensez à vos parents, eh bien, la question, c'est de savoir si vous pensez à papa ou maman, d'accord, ou mon père ou ma mère, ou si, au contraire, alors c'est un truc qu'il ne faut pas décider de faire. C'est un truc qu'on se surprend à faire. Si votre famille a bien fait son travail, à un moment donné, on se surprend à vivre les choses ainsi. C'est, donc, est-ce que soit je les vois comme papa et maman, ben, dans ce cas-là, si je les vois toujours comme papa et maman, ben, ça veut dire que je me positionne vis-à-vis d'eux comme un enfant, en tant que l'enfant de mon père ou de ma mère, quoi, hein. Et je n'arrive pas à les voir autrement que comme mon père ou ma mère. Ou bien, si la famille a fait son travail, eh bien, c'est vrai qu'on se surprend un jour à penser à ses parents ou à s'adresser à eux s'ils sont toujours vivants. Et ça, c'est difficile à expliquer. Mais enfin, voilà comment moi j'arrive à le dire. Donc, on s'adresse à eux comme à un homme ou à une femme qui ont fait ce qu'ils ont pu dans la vie. Et quand on se surprend... Donc, ça ne veut pas dire qu'on nie le fait que c'est mon père ou ma mère. Hein, donc, ben, ça restera jusqu'à la fin de mes jours mon père ou ma mère. Ça, il n'y a pas moyen d'effacer. Mais quand on voit que ces deux personnes-là sont plus que mon père et ma mère. C'est avant tout, et ça vous pouvez le dire pour vous-même, hein, si vous avez eu des enfants vous-même, ben je ne suis pas que le père ou la mère de mes enfants. J'ai une vie en dehors, j'ai une vie avant d'avoir des enfants, puis maintenant que mes enfants sont partis, ben, j'ai une vie évidemment en dehors de cela. Enfin, ma vie ne se réduit pas à être un père ou une mère. D'accord ? Donc, quand vous vous surprenez, parce que ce n'est pas un raisonnement qu'il faut faire dans sa tête. Hein. Monsieur Longnu a dit que, donc maintenant je vois... Bon, tout ça, c'est mauvais. Donc, c'est quand tout d'un coup, on se surprend à s'adresser à eux, ou à penser à eux, comme étant d'abord et avant tout, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça va, comme étant un homme qui a fait ce qu'il a pu avec les ressources qui étaient les siennes, avec l'éducation qui était la sienne, etc., etc. Et ma mère, ben, avant que d'être ma mère, c'est une femme qui a fait aussi ce qu'elle a pu avec ses désirs, avec son éducation, avec le, enfin, voilà, tout ce que vous voulez, etc., comme mon père. Quand vous le rendez et que vous vous surprenez à les voir comme ça, donc comme un homme ou comme une femme, il est probable. Donc hypothèse, en tout cas moi c'est un truc qui me semble plus ou moins évident, mais je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups, mais il est probable que ça signifie que je me positionne face à eux, avant tout, moi aussi comme un homme ou une femme qui maintenant fait sa vie. Comprenez ? Donc quand je vois mes parents comme papa et maman, automatiquement je me positionne comme enfant, fils ou fille d'eux, et je n'arrive pas à sortir de ça. Quand vous les voyez comme un homme ou une femme, ben, je ne nie pas que je suis leur enfant, ce n'est pas possible, mais je ne me réduis pas à être que l'enfant de mes parents. Je les vois aussi du point de vue de l'homme ou de la femme que je suis moi-même, si vous voulez. Et quand vous êtes dans ce type de relation, probablement que votre famille a fait ce travail de pouvoir donner cette distance qui vous permet d'exister pour vous-même, indépendamment de ceux à qui vous devez tout et qui sont donc ben, cette famille, ses parents, ses grands-parents, etc., etc., que vous avez connus, évidemment, dans votre vie. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire, voilà, Alors maintenant, regardez, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on a soi-même des enfants, ben, ce qui est quand même troublant, et ça quand on discute, c'est vrai que c'est peut-être plus facile dans ce sens-là que dans l'autre d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand les enfants grandissent, on se surprend soi-même à les voir petit à petit davantage comme un jeune homme ou une jeune femme qui commence à faire sa vie que comme exclusivement son fils ou sa fille. Leur vie nous échappe et dans la majorité des cas, quand ça se passe plus ou moins bien, c'est pas un problème. Et du coup, ben, voyez bien, quand vous les voyez comme un jeune homme ou une jeune fille qui font maintenant désormais leur vie, ben, probablement que vous vous positionnez vis-à-vis d'eux comme n'étant plus seulement et exclusivement leur père ou leur mère. Je leur rends leur vie et je reprends la mienne, si vous voulez. Et c'est aussi en tant, par exemple, hein, si je prends mon cas, hein, ben, c'est aussi en tant qu'homme que parfois je parle à mes enfants. Ce qui n'empêche pas que je suis leur père, hein, évidemment, mais... Comprenez, il y a autre chose qui vient se superposer et je ne les enferme pas dans le fait que ce sont mes enfants, donc ils sont redevables ou je ne sais pas quoi, et on est reparti pour un tour, hein, où je les enfermerai dans une relation, si vous voulez. Ben, ça, vous pouvez aussi, si vous, selon l'âge des enfants que vous avez, hein, si vous avez des enfants, ben, c'est vrai qu'à un moment donné, les relations changent d'elles-mêmes, quoi. Mais il y a des parents qui n'y arrivent pas, ça c'est clair, hein. C'est que je m'inquiète toujours, j'ai peur, je téléphone tous les jours pour être sûr que tout va bien, etc. Puis tu ne veux pas une machine à laver quand même, je vais bien te la payer. Enfin, on est reparti pour un tour. Hein. Mais dans beaucoup de cas, on se rend compte que petit à petit, ben, on lâche prise, quoi. Et en lâchant prise, c'est pas qu'on les abandonne, je leur donne la chance de pouvoir vivre leur vie. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Hein. Mais vous voyez, donc, ce qu'il va falloir évidemment travailler là, pour oser lâcher prise, c'est évidemment donc travailler, enfin ça c'est un autre sujet, mais qui est très important, parce que concrètement il faut quand même bien en dire un mot, c'est qu'il faut évidemment pouvoir travailler ses peurs. Comment ? Ses peurs, il faut pouvoir travailler ses peurs, parce que comment voulez-vous qu'on ne se soucie pas de ses enfants, qu'on n'ait pas peur pour eux, qu'on ne s'inquiète pas, et que du coup ben, on va quand même téléphoner, hop, ça y est, c'est reparti pour un tour. Donc ce qui souvent, et donc du coup on vous dira, ben voilà, dans tous ces problèmes-là, souvent ce que l'on transmet, sous couvert d'amour ou je ne sais pas quoi, c'est la peur que l'on a qu'il leur arrive quelque chose. Plus vous apprenez à maîtriser ou à habiter ou à apprivoiser les peurs, on ne peut pas les supprimer, hein, mais plus on apprivoise ces peurs, plus je peux lâcher mes enfants. Plus je suis dans la peur de ce qui pourrait leur arriver, de ce qu'on pourrait leur faire, etc., ben je ne les lâche pas. Et voilà encore une manière d'être une famille trop présente par l'intermédiaire de la peur, ici. Pas une famille absente, mais donc c'est bien le deuxième modèle que vous avez. Alors, ben voilà, ben donc je vais m'arrêter là. Oui, voilà.
Un des questions, mais alors, peut-être essayer de répondre.
Oui, je répondrai, voilà. Mais donc, voilà, vous avez compris.
Désolée, mais si on veut laisser la place
oui, tout à
au
fait.
Carrefour, et on va commencer par la question de monsieur.
Ah oui, c'est vrai, oui.
courte question, bien sûr. Courte réponse.
Merci beaucoup, donc ça fait des réponses courtes. Hein. Il y en a deux, mais ça fait des réponses très courtes. Vous avez défini les trois comportements, fuite, violence, affrontement, qui peut y avoir...
Effondrement.
Affrontement, oui.
Effondrement,
qui peut y avoir pour un enfant dans le contexte de séparation. Est-ce que c'est nécessairement l'une de ces choses-là qui arrive, ou est-ce que parfois ça n'arrive pas? Alors peut-être que vous y avez un petit peu répondu par le deuxième exposé, je ne sais pas. Et ma deuxième question, qu'en est-il de la souffrance d'enfants qui sont déjà de jeunes adultes ou d'adultes lorsque la séparation a lieu? Pour moi, les enfants étaient déjà de jeunes adultes. Est-ce qu'il y a également une souffrance dans ce cas-là? Et quelle est-elle?
Alors, donc, première réponse générale aux deux questions, c'est qu'évidemment, un cas n'étant pas l'autre, vous ne pouvez jamais exclure que quelqu'un réagit d'une façon singulière qui va à l'encontre de ce qu'on voit habituellement. Donc ça, voilà, donc ce serait la première réponse. Donc, vous ne pouvez pas exclure donc l'hypothèse par rapport à votre première question qu'il y ait des enfants qui, finalement, on pourrait même imaginer, vivent comme un soulagement la séparation. Donc imaginez donc un cas où, de fait, c'est la bagarre, c'est « je vois ma mère se faire taper » ou l'inverse, enfin bon, peu importe ce qu'on voit, mais c'est l'enfer à la maison. Ben, le fait qu'ils se séparent, mais pff, c'est qui est délivrant. Un peu comme on dit d'ailleurs dans des fins de vie hein, qui deviennent vraiment mais terribles à accompagner, ben, quand enfin la personne s'en va, on dit « mais voilà, c'est une délivrance » et tout le monde, on ne le dit pas, mais enfin tout le monde est soulagé quand même. Donc on ne peut pas exclure des situations comme celle-là où ce n'est pas forcément de la fuite et compagnie. Maintenant, dans des situations où on n'est pas dans des scénarios vraiment la catastrophe, où il y a des gens qui sont tabassés, on voit des choses, enfin les enfants vivent des trucs horribles, et donc c'est la seule chose qu'on espère, c'est que ça cesse, quoi, hein, et donc ce sera vécu comme une délivrance. Quand vous avez, donc dans des situations ordinaires, où il y a des tensions, il y a des disputes et tout ça, mais enfin voilà, donc la séparation a quand même lieu, les enfants, a priori, on dirait qu'ils encaissent bien. Ça peut arriver. Alors là, vous aurez... Donc l'hypothèse que vous devez avoir en tête, et donc il ne faut pas la projeter et en faire une affirmation trop vite, donc là il faut regarder un petit peu, mais l'hypothèse que vous pouvez formuler, en tout cas pour rester vigilant, c'est que cette attitude où apparemment tout va bien, ça soit rangé dans la catégorie des comportements de fuite. Donc parmi les comportements de fuite, donc moi je vous avais dit, voilà, le fait que je vais fuir, je ne veux plus voir mon père, ma mère, ou je ne sais pas quoi, je vais tout le temps avec mes copains, comme ça la suroccupation, comme ça je ne pense pas à mes parents, et moins j'y pense, mieux je me porte. Tout ça c'est de la fuite, mais il y a aussi dans les comportements de fuite le fait que je vais me blinder. La souffrance, parce que la souffrance elle est en moi, la souffrance que je ressens, eh bien je vais l'anesthésier littéralement. Et c'est vrai dans d'autres circonstances, hein, ce n'est pas que dans les séparations, donc, ou de fait, donc... Quand vous demandez à quelqu'un « mais ça va, tu tiens le coup », la personne ne vous ment pas. Hein. Elle pourrait même vous dire « mais je me surprends moi-même, tout va bien hein. ». Et en réalité, donc la blessure est là, malheureusement. Et parfois, c'est quand cette attitude de... Parce qu'en général, ça casse toujours tôt ou tard. Hein. Souvent, c'est tard, malheureusement. Mais donc, quand cette anesthésie a eu lieu, donc à l'usure, la réalité reviendra toujours. Et c'est parfois, donc, des années plus tard, dans un autre contexte, ça c'est dans les scénarios les plus graves, c'est dans un autre contexte qui n'a rien à voir avec la blessure d'origine que vous avez quelqu'un qui commence à décompenser, donc à exploser, à s'effondrer, ou bien imaginez que j'ai mal vécu ce qui s'est passé avec mes parents, et notamment j'en veux à ma mère. Mais voilà, je dois être un bon fils, donc tout ça j'ai ravalé. Non, tout va bien, mes parents sont séparés, etc. Mais enfin, moi, j'ai quand même vécu là une blessure terrible. Je me marie. Ben, ce qui est encore pire, c'est que c'est ma femme qui va déguster. Et sans que je fasse le lien moi-même, hein, mais dès qu'elle fait un pas de côté, ça prend des proportions et je m'énerve et ça explose, etc. Je ne vois que ma femme et que son comportement et je pense que j'ai bien raison de m'énerver et je ne suis même pas au courant qu'en fait, je réagis comme ça ben, par rapport à la première blessure qui vient de la première femme de ma vie, qui est ma mère. Et c'est elle qui paye le pot cassé dans l'affaire. Et puis après, si j'ai des enfants, c'est ma fille, c'est... enfin voilà, et ainsi de suite. Enfin, vous vous rendez compte. Donc il peut y avoir, dans certains scénarios, donc c'est assez troublant, mais cette espèce d'anesthésie qu'on peut même appeler, donc il y a des gens qui identifient ça à une forme de déni. Donc je vais tellement ravaler la détresse qui est la mienne que je ne la vois pas et que je suis sincère quand je vous dis... tout en tapant ma femme, mais avec ma mère, c'était génial. Hein. Comprenez, parce que ça a été tellement nié que... Voilà. Donc, ce cas-là, vous ne pouvez pas l'exclure. Donc, on dira, enfin, en résumé, quand quelqu'un semble bien réagir alors que sa vie est bouleversée, ben, soit c'est quelqu'un qui, voilà, a trouvé le levier pour traverser l'affaire, et ça, on ne peut pas l'exclure a priori, mais peut-être que c'est l'eau dormante et qu'un jour, ça va sortir, quoi. Et alors là, il faudra souvent courir vite, hein, parce que quand ça sort, ça sort. Hein.
Et les adultes, les enfants qui sont déjà adultes?
Ben ça, voilà, c'est la même chose. Ça représente un bouleversement qui n'est pas le même que quand on a un enfant qu'on dépend et qu'on pense à travers ses parents, qu'on comprend le monde à travers ses parents. Si vous avez des enfants qui font leur vie, ben voilà, ils font leur vie. Mais ça vient les rejoindre quand même en tant qu'enfants, sauf dans un cas. Donc vous aurez un deuil de toute façon, hein, mais qui sera plus ou moins facilement vécu si ce que je viens de vous raconter ici, hein, et d'ailleurs vous faisiez le lien vous-même, hein, en effet, si comment ces adultes ou ces jeunes adultes ont fait ce travail de mettre de la distance avec leurs parents, et ce qui arrive à mes parents, ce n'est pas à moi que ça arrive. Mes parents, ben voilà, c'est un homme et une femme qui font ce qu'ils peuvent dans la vie, ils n'arrivent plus à pouvoir s'entendre, ben ça leur appartient. Et quand cette distance a lieu, ben c'est pas qu'on n'est pas touché. Et on peut même être blessé parce que c'est triste, voilà, je les ai connus ensemble, c'est dommage, etc. Puis je vois qu'un des deux ou les deux sont tristes, donc on est triste aussi. Mais ça reste leur histoire. Et en tant que ça reste leur histoire, ben voilà, moi je peux me protéger. Voilà, il n'y a plus cette confusion que l'on pourrait avoir avec de jeunes enfants qui dépendent de leurs parents, évidemment. Donc, mais si ce travail n'a pas été fait...
Est-ce qu'il y a une autre question?
Alors, ici, dans le cas du blindage, comment est-ce qu'on peut arriver, parce que c'est un homme de 18 ans, là, et plus de ma fille, et disons, on va bien, enfin, on a l'impression on se trompe, mais on a difficile de communiquer, de dire, est-ce qu'il faudrait dire, conseiller d'aller... Peut-être à une personne, c'est pas plus facile, mais il y a peut-être des avis, hein, mais comment est-ce qu'on peut...
Alors quand vous avez quelqu'un qui est enfermé dans le déni, ou dans une attitude de blindage comme ça, hein, où le risque, enfin ce qu'on observe le plus souvent, c'est que tous les discours que je vais tenir vont venir alimenter cette anesthésie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez parler pendant des heures, faire des démonstrations par A plus B pour dire « mais ouvre tes yeux, regarde », enfin je ne sais pas quoi, mais on essaye de... Ben, la personne va vous... Comme il s'agit de se protéger et de surtout pas faire ressortir ce que j'ai mis du temps à essayer de ravaler, ben, je vais vous inventer des contre-arguments, « tu n'as rien compris, t'es pas à ma place », enfin je ne sais pas quoi, moi tous des trucs comme ça pour me persuader que j'ai bien raison de vivre les choses comme je les vis et que c'est vous qui n'avez rien compris. Et un psy ou un professionnel ou un tiers, ben, ce sera perçu de la même façon. Et d'ailleurs, alors, ben, qu'est-ce qui fait qu'un déni explose? C'est quand la réalité, à un moment donné, n'est plus évitable. Donc c'est, pour le dire autrement, c'est à l'usure. Donc les théories, les discours, etc., ça va glisser.
Donc il faut revenir sur la...
Alors, ben voilà. Mais alors, avec la prudence qui est la suivante, c'est que quand on est dans des situations comme celle-là, c'est de dire, ben voilà, voilà comment moi j'ai perçu les choses, ou bien voilà comment moi je comprends les choses, et que ça reste votre point de vue. Si vous dites à la personne, mais je reviens à la charge, mais ouvre tes yeux, ben la personne va se renforcer encore plus pour essayer de vous mettre à distance. Donc ça sert à rien, vous rajoutez des couches à son affaire, et donc c'est tout ça qu'il va falloir défaire. Hein. Donc, s'il s'agit de rappeler le réel, ça je pense qu'il faut toujours le faire quand il y a des choses graves ou importantes, il ne faut pas les taire. Donc il ne faut pas devenir complice du déni de la personne, si vous voulez. Donc il faut les dire, mais il faut toujours les dire de façon à ce que ça ne renforce pas la fuite de la personne. Et donc dire par exemple, ben voilà, moi je continue à vivre les choses comme ça, je continue à les comprendre comme ça, voilà mon approche, voilà comment moi j'ai... Et de parler de votre point de vue. Ce qui laisse à l'autre, voyez bien, la liberté de pouvoir dire, ben moi je ne l'ai pas vécu du tout comme ça, pour moi il n'y a pas de problème, voilà. Ben c'est pas grave.
Ce serait suffisant.
Parce qu'alors là, il y a un contact, il y a un lien. Et alors c'est de profiter de ce lien de confiance où je peux entendre quelqu'un qui me dit des trucs et moi je ne suis pas d'accord avec vous, hein, si je joue le rôle de la personne de 18 ans, mais du coup je me rends compte que vous ne me jugez pas. Mais je peux vous dire que je ne suis pas d'accord, et petit à petit, ben voilà, si moi je peux vous dire que je ne suis pas d'accord avec votre lecture, peut-être qu'un jour j'accepterai que vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord avec la mienne. Voilà, et voilà, et puis petit à petit, et à l'usure, donc, ben, où le réel c'est comme du papier de verre, si vous voulez, hein, donc à un moment donné, c'est, voilà, le vernis craque, et à un moment, ben, bien souvent le déni, suite à un événement, ben, va exploser. Hein, donc...